un choix technique peut avoir un impact démocratique, et il faut bien avoir en tête que ce qui est techniquement faisable n'est pas nécessairement démocratiquement acceptable.
Ça, c'est très important. Il faut que personne, ni moi, ni quelqu'un d'autre, puisse faire des choses qui ne sont pas acceptables.
Comment est-ce qu'on peut, dans un État démocratique, accepter que une personne soit la personne qui garantit de bout en bout l'efficacité du système?
Quand quelqu'un est le seul à comprendre comment ça fonctionne, il devient incontournable.
Même les gens qui sont le plus critiques n'ont jamais appelé un grand méchant, donc ça, je ne crois pas.
La première, démocratie en question, Arnaud Reussen.
C'est un enjeu qui s'est progressivement invité à l'avant-scène au fil de la crise Covid, la gestion de nos données personnelles par l'État. Au fil de notre vie, l'État enregistre toute une série d'informations sur nous, sur nos revenus, sur notre état de santé, notre état civil. Mais comment ces données sont-elles gérées, stockées, protégées? Comment s'assurer qu'elles ne servent pas à une surveillance de masse en mode Big Brother? Plongée dans l'écheveau très complexe des banques de données de l'État, accrochez-vous bien et suivez le fil.
Cinquième épisode. L'État et nos données. La tentation Big Brother.
Notre enquête commence dans une pharmacie bruxelloise.
Voilà. C'est facile, hein. C'est un comprimé 3 fois par jour après les repas. Oui, oui, oui. Comme d'habitude, hein. 3 fois par jour après les repas.
Valérie, la pharmacienne, a accepté de me montrer ce qui apparaît sur son écran d'ordinateur lorsque j'insère ma carte d'identité dans le lecteur qui se trouve sur son comptoir.
Donc, alors, voilà ma carte d'identité.
Merci. Donc, on va la mettre dans la machine. J'appuie sur le petit bouton lecture de eID. Et alors, le temps que tout se lise, j'arrive directement. On a votre photo, évidemment, et alors le numéro national. Et directement aussi, on voit si vous êtes en règle d'assurabilité au niveau de la mutuelle. Pas d'assurance complémentaire, etc. Uniquement la mutuelle ici en Belgique. Date de naissance. On a l'adresse. Rien de plus. Parfois, il y a le numéro de téléphone qui apparaît aussi si un médecin l'a introduit. Ça peut arriver aussi parfois chez certaines personnes. Ce qui est parfois, enfin, qui est quand même pas mal pour pouvoir récupérer si on a fait une erreur quelque part ou si on doit contacter vraiment le patient de façon urgente.
Voilà pour les données de base, relativement sommaires finalement. Sauf que ces dernières semaines, une fenêtre supplémentaire s'ouvrait au moment de scanner la carte.
Donc le pop-up lui-même se montrait en fait quand la personne, enfin le patient qui se trouvait devant nous une fois qu'on avait passé sa carte d'identité, avait déjà reçu en fait une convocation pour se faire vacciner. Et aussi dans le cas où il avait déjà eu sa première dose mais pas encore sa deuxième, qu'il fallait faire un petit rappel. Donc dans le cas où la personne avait reçu sa convocation et ne s'était pas encore fait vacciner, on devait le sensibiliser à cette vaccination, ce qui est logique, et le motiver pour y aller et poser la question, tiens, pourquoi éventuellement est-ce que vous y allez pas, ou est-ce que vous avez fait le nécessaire, ou est-ce qu'il faut de l'aide, ou c'était vraiment pour engager la conversation.
Une fenêtre en mode pop-up que Valérie a finalement choisi de désactiver.
Quelque part, je trouvais ça intrusif à partir du moment où la vaccination n'est pas obligatoire, d'aller voir la personne, tiens, vous n'êtes pas encore fait vacciner, c'est normal ou pas. À partir du moment où ça ne vient pas de la démarche personnelle du patient, je trouve qu'il ne faut pas le faire. Ouais.
Toute une série de pharmaciens ont d'ailleurs fait ce choix de ne pas être tenus au courant des données de vaccination des clients qui se présentaient à leur comptoir. Par contre, nous, on a eu envie de savoir d'où venaient ces données de vaccination, où sont-elles stockées, qui y a accès, combien de temps vont-elles être conservées. Et quand on parle de données, il y a un homme incontournable en Belgique, un homme dont le nom est apparu à de nombreux étages de la crise ces derniers mois, c'est Franck Robben, patron notamment de la banque Carrefour de la Sécurité sociale, ainsi que de la plateforme eHealth. Je tâche d'obtenir un rendez-vous avec lui, et ce n'est pas simple. L'homme et ses multiples casquettes est très occupé, mais quelques coups de fil et mails plus tard, rendez-vous est pris, ce sera dans ses bureaux, un vendredi soir, à à 19h30.
Grand monde dans les bureaux à cette heure-ci. Oh, j'imagine.
Nous voici.
Monsieur Robin, bonsoir. Merci de me recevoir.
Commençons alors par les données de vaccination. Je suis personnellement vacciné en première dose au moment de l'interview et je veux savoir où sont stockées les données qui me concernent.
Depuis toujours, en tout cas en Flandre, il y a une base donnée qui s'appelle Vaccinet. Et tous les vaccins que quelqu'un reçoit sont dans cette base donnée, que ce soit le vaccin contre le polio, contre le tétanos, etc. Et donc, Vaccinet a reçu la mission de stocker les vaccins contre le Covid dans cette base donnée. Donc, c'est une base donnée qui contient tous les vaccins de toutes les personnes. Et c'est la seule base donnée qui, une fois que la pandémie est terminée, continuera à exister. Ce qui est normal parce qu'on veut naturellement savoir, il est possible que vous devez avoir après un certain nombre d'années un troisième ou un quatrième ou un cinquième vaccin. Il faut être sûr que c'est peut-être le même vaccin, etc. Ça, allez, ce sont les personnes scientifiques qui doivent le dire.
Donc, en Flandre, contrairement à la partie francophone du pays, il y a déjà une base de données qui répertorie ce que chaque citoyenne ou citoyen a reçu comme vaccin. Et c'est cette base de données qui a servi à répertorier la vaccination Covid de tous les Belges. À côté de cela, il y a aussi une base de données temporaire qui sert à organiser la vaccination et à définir les priorités.
Donc toutes les personnes qui peuvent être vaccinées ont été chargées à partir du registre national avec le numéro d'identification unique parce qu'on veut être sûr que c'est bien cette personne-là et pas une autre personne. Et donc dans cette population, les mutualités et les médecins ont pu, mais sans indiquer pour quelles raisons, ont pu indiquer qu'une personne était prioritaire.
Les personnes qui ont des comorbidités peuvent donc être répertoriées pour être vaccinées d'abord, mais sans que la maladie dont ils souffrent apparaisse dans les données.
Donc on ne sait pas la raison, on sait simplement on peut l'inviter et c'est selon ces priorités-là. Voilà, c'est tout.
Donc ça, c'est pour cette base d'organisation. Donc la donnée selon laquelle telle personne a une maladie cardiovasculaire, par exemple, ça reste à la mutuelle. Cette information-là ne va pas se retrouver dans cette base.
Non, c'est un flac binaire, oui, non. Donc prioritaire ou pas prioritaire. Oui.
D'accord.
Mais revenons à la base de données qui va rester, celle qui répertorie toutes les personnes vaccinées et qui va perdurer durant 30 ans. Elle est accessible à qui, au fond, cette base ?
À la personne même, naturellement, au patient même et aux prestataires de soins qui ont besoin de cette information pour soigner les patients. Si moi, j'ai un accident et je viens au service d'urgence et on veut savoir si on doit encore me donner un vaccin de suivi contre le tétanos ou pas, ils vont aller voir quand est-ce que j'ai eu ma dernière piqûre. Si j'ai eu ma dernière piqûre il y a 3 ans, ils ne vont pas la donner. Si c'est il y a 7 ans, ils vont le donner.
Aux prestataires de soins, donc. Mais quand on regarde plus précisément les textes, on se rend compte que le cadre ouvert est plus large et qu'on pourrait permettre l'accès à cette base à des organismes d'intérêt public, voire à des organismes assureurs. Ça signifie quoi, ça ?
On a considéré que ça pourrait être utile que, par exemple, je vais chez mon pharmacien. Mon pharmacien voit que j'ai été invité à être vacciné, mais que je n'ai pas encore confirmer mon rendez-vous. Il me connaît un peu, il peut peut-être me demander est-ce que vous hésitez, est-ce que vous avez des questions, etc. Donc ces instances d'intérêt général, ce sont des instances, c'est ça qui a été visé dans la réglementation, ce sont des instances qui peuvent aider le patient à comprendre rien d'autre que cela. Donc ce n'est pas du tout dans l'accord de coopération, ce n'est pas du tout autorisé que quelqu'un, qu'un employeur dit vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas entrer, non.
Et organisme assureur, ça vise quoi ? Est-ce qu'on pourrait à un moment donné avoir des compagnies d'assurance, par exemple, qui disent moi je ne vais pas
sur la vie, par exemple. Les organismes d'assurance privés n'ont pas accès à ces bases de données.
Reste que le flou et les largesses du texte adopté par les politiques interpellent. Et cela avait été souligné clairement par l'autorité de protection des données, l'APD, sorte de gendarme qui veille sur notre vie privée en Belgique et qui estimait que les possibilités ouvertes par le texte, même à des fins de sensibilisation, devaient être davantage cadrées par le législateur, en l'occurrence les parlements. Mais sortons un peu de la vaccination et de la gestion de crise Covid pour essayer de comprendre plus largement ce que l'État fait de toutes les données qu'il collecte sur nous.
Bonjour.
Bonjour.
Pour y voir clair, on a pris rendez-vous avec Élise Degrave. Elle est professeure à l'Université de Namur, spécialiste en droit de la vie privée. Et cela fait plus de 15 ans maintenant qu'elle étudie la façon dont l'État gère nos données personnelles. Alors commençons par la base. Quelles sont ces données numériques que l'État collecte sur nous?
Donc depuis très longtemps, l'État collecte des informations sur tous les citoyens, les enregistre et les réutilise par la suite. Et c'est tout à fait légitime parce que c'est nécessaire pour que l'État puisse exercer ses missions de service public dans notre intérêt. Et ça nous arrange bien que ça se fasse sous forme numérique parce que ça nous évite de devoir donner 25 fois la même information à des tas d'administrations différentes. Et donc concrètement, comment ça se passe? L'État collecte des données sur notre identité, sur notre composition de famille, qui sont enregistrées au registre national, qui est la première base de données qui a été créée en Belgique dans les années 60, mais réellement mise en place et encadrée en 1983. Donc c'est vraiment la première base de données dans laquelle on est enregistré dès notre naissance, et qui nous permet d'avoir une existence civique et une carte d'identité. L'État enregistre aussi nos données fiscales pour établir l'impôt, et ça nous permet aussi, par exemple, d'avoir une déclaration fiscale pré-encodée, ce qui est assez pratique. L'État enregistre nos données revenus pour permettre notamment aux personnes qui ont un revenu en dessous d'un certain seuil de bénéficier d'un tarif préférentiel pour le gaz, l'eau, l'électricité. L'État enregistre nos données sur notre famille pour nous permettre d'obtenir des allocations familiales. L'État enregistre aussi des données sur notre voiture, ce qui nous permet d'obtenir un rappel quand on doit faire un contrôle technique. L'État enregistre aussi des données sur notre pension, ce qui nous permet d'aller voir en ligne où on en est au niveau de la pension. Donc toute notre vie se passe comme ça. Tous les citoyens doivent donner leurs informations, ils n'ont pas le choix, parce qu'il y a en amont une sorte de pacte entre le citoyen et l'État. Le citoyen accepte de fournir ses informations parce qu'il sait que l'État va utiliser ces informations pour lui rendre des services. Il sait aussi, le citoyen, qu'il va être contrôlé. Mais c'est légitime. Dans un État, il faut pouvoir contrôler que les droits, les obligations sont bien respectés. Et tout ça est bien balisé, jusqu'ici, par des lois et contrôlé par des autorités compétentes.
Voilà pour le pacte de départ. Vous aurez noté le « jusqu'ici », puisqu'aujourd'hui, justement, une série de questions se posent sur les balises qui encadrent tous ces traitements de données. Mais ne brûlons pas les étapes, et continuons à essayer de bien cerner le modèle. Où vont les données une fois collectées? Eh bien, elles ne vont pas dans une grande base de données centrale. Non, elles vont dans toute une série de bases de données décentralisées, et ce choix n'a pas été posé au hasard.
Alors, la centralisation, c'est un modèle qui avait été envisagé en France dans les années 70, avec un système qu'ils avaient appelé Safari, le système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus, qui consistait à centraliser dans une même base de données toutes les données détenues par l'État français à propos des Français. Le Monde a titré Safari ou la chasse aux Français. Ce système a fait un tollé parce qu'on s'est dit « Oula, ça c'est hyper dangereux parce qu'on va centraliser toutes les données. Il suffira pour un pirate informatique de hacker le système, d'entrer dedans et d'avoir l'identité et les informations de tous les Français en un coup. Ça ne va pas. » Du coup, on a choisi un autre modèle que l'on doit à Frank Robben, qui est celui de la décentralisation des données. Donc l'idée, c'est de garder l'objectif d'efficacité administrative, de simplification administrative, cette idée de dire on ne va pas demander aux citoyens de donner 25 fois la même information, tout en protégeant la vie privée dès la conception du système. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le privacy by design, mais donc c'est vraiment l'idée de dire dans l'architecture du système, on fait en sorte de minimiser les risques pour la vie privée. Et donc, comment ça se passe? On a identifié des administrations qui s'occupaient d'une même matière. Donc, les administrations qui s'occupent de la sécurité sociale, les administrations qui s'occupent de la santé. On met ces administrations dans un réseau qui se structure en fait grosso modo comme une toile d'araignée. Donc ces administrations sont dans un réseau sectoriel, elles sont interconnectées entre elles, et on va dire aux administrations, vous n'enregistrez pas toutes les données dont vous en avez besoin, vous allez enregistrer certains types de données, et si vous avez besoin d'une information dont vous ne disposez pas, vous allez contacter l'organisme qui se trouve au cœur du réseau, qui s'appelle une banque Carrefour, qu'on appelle aussi une plateforme d'échange d'informations. Vous allez lui demander cette information. Et c'est cette plateforme qui va aller chercher l'information là où elle se trouve et la ramener à l'administration qui en a besoin.
Prenons un cas concret. Vous allez signaler à l'état civil la naissance d'un enfant. C'est une donnée qui va intéresser d'autres administrations également. Celles qui vous versent les allocations familiales ou encore l'administration fiscale, qui va moduler l'impôt en fonction du nombre d'enfants à charge. Un dialogue d'administration à administration est donc organisé pour que chacune d'elles puisse disposer de l'information nécessaire sans que vous deviez compléter 36 formulaires à chaque fois et sans passer par un grand fichage centralisé de tous les Belges. Franck Robben, qui a été en bonne partie l'architecte de ce système décentralisé, en souligne les opportunités.
Prenons une personne handicapée. Il y a 20 ans, cette personne, quand elle avait une allocation pour personne handicapée, elle sortait avec 15 formulaires papier. Et elle devait aller demander partout et donner un papier pour avoir son tarif social, électricité, gaz, eau, abonnement gratuit pour le transport en commun. Aujourd'hui, sauf si cette personne dit non, je veux quand même continuer à l'aller demander moi-même, c'est ce qu'on appelle l'opting out. Elle reçoit tous ses droits automatiquement. Sans que les institutions qui donnent ces avantages doivent savoir quel handicap cette personne a, et même pas nécessairement que c'est une personne handicapée.
Et celui qui est également patron de la plateforme eHealth donne encore cet autre exemple.
Quand moi j'allais chez mon médecin, prenait du sang, elle m'envoyait pour une gastroscopie à un hôpital. Je revenais une semaine plus tard. Elle avait un code, un user ID, un mot de passe avec lequel elle devait aller dans le serveur de résultats de laboratoire clinique pour aller chercher dans cette base de données les résultats de mon examen du sang. Alors elle devait faire le logout, aller sur l'ordinateur, sur la base de données de l'hôpital, entrer un autre code et aller chercher les résultats de ma gastroscopie. Enfin, elle avait besoin de 10 minutes pour rechercher mes informations, alors elle a encore 5 minutes pour moi. Aujourd'hui, on a un système qu'on a mis à disposition de contrôle d'accès et de gestion des utilisateurs, décentralisé. Je ne vais pas entrer dans les détails. Résultat de la course, pendant que mon médecin vient me chercher dans la salle d'attente, son ordinateur va déjà chercher automatiquement avec un single sign-on les deux résultats. Elle a besoin d'une minute. Avec son ordinateur, elle a 14 minutes pour moi.
Bon, dit comme ça, ça paraît franchement pas mal. Un service plus efficace, plus rapide, une simplification administrative et une décentralisation qui protège mieux nos données personnelles. Le modèle côté face a de l'allure. Sauf que, ces derniers mois, la gestion de nos données personnelles par l'État n'en finit pas de susciter des questions, des inquiétudes et des critiques parfois très vives, en particulier chez celles et ceux qui défendent nos droits fondamentaux et la protection des données.
Ce qui est un problème et ce qui nous inquiète à l'heure actuelle, c'est que l'État est en train de collecter une quantité impressionnante de données, est en train de stocker ces données dans des bases de données et ne balise pas du tout les possibilités d'utilisation et de réutilisation future de ces données.
Le droit à la vie privée des concitoyens et concitoyennes n'est pas correctement balisé, n'est pas correctement respecté.
Comment est-ce qu'on peut, dans un État démocratique, accepter qu'une personne soit la personne qui garantit de bout en bout l'efficacité du système ?
Vous savez, la protection des données nécessite énormément de confiance, et la confiance passe par la transparence.
Et on ne nous dit pas avec suffisamment de précision quelle autorité de l'État peut utiliser ces données, pourquoi et combien de temps elle peut les conserver. Et ça, c'est vraiment ce qui nous inquiète parce que ça donne lieu évidemment à toute une série de possibles dérives.
La première. Démocratie en question. Arno Reussen.
Pourquoi ce joli modèle, en théorie très bien pensé, inquiète-t-il tant les défenseurs des droits humains, l'autorité de protection des données et plusieurs spécialistes du droit qui se sont exprimés souvent ces derniers mois? Pour Élise de Grave, professeure de droit des nouvelles technologies, il y a en fait trois attentes légitimes du citoyen qui ne sont pas rencontrées.
Dans un état de droit, donc un état qui est encadré par du droit, le citoyen doit être protégé d'une administration qui serait toute puissante. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que le citoyen a le droit de comprendre ce qui se fait dans l'administration, s'il le souhaite. Il a le droit d'exiger que les pratiques de l'administration soient encadrées par des lois qui auraient été faites au terme d'un débat démocratique éclairé et éclairant. Et il a le droit aussi d'être sécurisé sur le fait que ses pratiques administratives sont contrôlées et pas nécessairement contrôlées par lui-même. Donc ces trois piliers, comprendre, encadrer, contrôler, trois piliers qui sont vraiment très importants dans un état de droit et qui sont ici ébranlés par la gestion des données par l'État.
Comprendre, encadrer, contrôler. On va s'arrêter justement sur ces trois enjeux. D'abord, comprendre, savoir de quelles données l'État dispose et comment il les utilise. Commençons pour cela par aller voir les outils de transparence qui sont mis à notre disposition, d'abord du côté du registre national, où il est possible pour tout citoyen d'accéder à son dossier.
Introduisez votre code PIN afin que votre identité soit vérifiée. Une fois que votre code PIN est introduit, vous avez accès à votre dossier personnel au registre national.
Premier problème.
Code erroné. Code erroné.
Après trois tentatives, me voilà bloqué, obligé de demander de nouveaux codes à ma commune.
Commune de Sombrette, bonjour.
Oui, bonjour madame Arno Reussen. Je vous appelle parce que j'ai un petit souci. J'ai voulu utiliser ma carte d'identité pour accéder au registre national, mais j'ai dû visiblement me tromper sur mon code PIN puisque après trois tentatives, je me suis retrouvé bloqué. Comment est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là?
Est-ce que vous avez encore le code PEC ou pas?
Je ne suis pas certain.
Parce que si vous avez encore le code PEC, là, vous venez avec le code PEC, alors on peut redemander directement un nouveau code PIN. Mais si vous n'avez plus rien du tout, là, on doit recommander des codes. Et là, il faut compter une dizaine de jours, plus ou moins, pour les avoir.
Ben, je m'occupe de ça. Merci beaucoup.
Voilà, je vous en prie. Au revoir, monsieur.
Au revoir.
Au revoir.
Quelques jours plus tard, donc, une fois armé de mes nouveaux codes, je peux examiner les différentes données qui se retrouvent au registre national. Ma situation familiale, nom de mes parents, de mes enfants, mais aussi, et c'est intéressant, savoir quand mon dossier a été consulté et par quelle institution. En l'occurrence, le plus souvent, c'est la banque Carrefour de la Sécurité sociale, mais je reste un peu sur ma faim puisque je ne sais pas pour quel motif ou à la demande de qui la banque Carrefour est venue consulter mes données. Je poursuis sur d'autres portails pour aller voir mes cotisations pension, ma carrière, ma santé. Beaucoup de portails différents, pas toujours simple de s'y retrouver, et pour le coup, là, pas moyen de savoir qui a accédé à mes données. Une complexité et un flou qui, pour Élise de Grave, posent problème, par exemple en cas d'erreur de l'administration.
Retrouver une erreur dans l'utilisation des données, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. L'erreur, elle peut venir des données qui seraient erronées, et une erreur dans une donnée a un grand impact, parce que comme ces données sont réutilisées au sein de l'État, une erreur dans une donnée a un effet domino. Ça peut venir des algorithmes qui sont appliqués sur les données qui pourraient être biaisées, c'est-à-dire affectées d'un défaut. Ça peut venir des techniques informatiques mises en place. De plus en plus, on utilise l'intelligence artificielle et le deep learning. On ne sait pas très bien ce qui se passe et c'est difficile de repérer les erreurs. Donc, comment savoir? Le citoyen est perdu et s'il essaye de s'intéresser au sujet, il risque d'avoir peur, d'être assez vite découragé, voire même dégoûté.
De son côté, Franck Robben reconnaît que tout n'est pas disponible et accessible pour les citoyens, mais parle d'un difficile équilibre à trouver.
Sur le plan de la transparence, on a là l'équilibre à trouver entre donner tous les détails et avoir le risque que ce n'est pas compréhensible pour les gens, et donner des grandes catégories de données, et risquer qu'une personne dise « mais ce n'est pas suffisamment précis ». Donc dans le secteur social, on essaye le plus que possible de donner directement accès à ces données. On a ma carrière, on a ma pension, etc. Là, les gens peuvent voir toute leur carrière, tout leur calcul de pension. On a une quarantaine d'applications de cet ordre-là. À côté de ça, si je dois vous donner la structure de la base de données précise à l'ONEM, allez, ce n'est pas évident non plus pour un citoyen lambda de s'y retrouver non plus. Hein, donc, allez.
Pas faux. On entre dans des modèles de gestion de données en araignée tellement complexes que s'y retrouver n'est pas simple du tout. Et on a pu voir aussi à différents moments de la crise Covid que la transparence totale des données, sur les vaccins par exemple, ne diminue pas forcément la méfiance. Le problème dans ce cas-ci, c'est que même pour les chercheurs spécialisés, cette information est difficilement accessible.
C'est une impression que j'ai eue souvent dans mes recherches. On me répond poliment, mais entre les lignes, il est marqué « Laisse-nous tranquille, cocotte, ne t'avise pas de venir farfouiller là-dedans ». C'est extrêmement difficile d'accéder à de l'information, au point que je me dis que ce désintérêt du citoyen, le fait que le citoyen se sente perdu, quelque part s'est construit. Je pense que ça arrange certains technocrates que des chercheurs notamment se découragent en touchant à la matière. Rien n'est fait ou très peu de choses sont faites pour pouvoir leur permettre d'accéder à de l'information et de pouvoir l'expliquer. Et je pense que c'est lié au fait que le savoir, c'est le pouvoir. Quand quelqu'un est le seul à comprendre comment ça fonctionne, comment les choses doivent être encadrées, comment les choses doivent être mises en œuvre, quand il est le seul à le comprendre, il devient incontournable.
Et là, on arrive à un deuxième enjeu important. Y a-t-il trop de pouvoir entre les mains de Frank Robben ? Le fait qu'il ait construit patiemment tout le système de gestion des données au fil des 30 dernières années, en mettant souvent le nez lui-même dans la programmation. Le fait qu'il cumule un grand nombre de casquettes dans l'administration. Le fait qu'il soit parfois carrément intervenu lui-même dans la rédaction de certains textes de loi. Qu'il ait été à tous les étages de la gestion des données de tracing, de testing, de vaccination durant la crise sanitaire. Tout cela suscite énormément d'inquiétudes chez les défenseurs de la démocratie et de l'état de droit.
Frank Robben, le voici, un génie de l'informatique appelé à la rescousse pour mettre en place le traçage en Belgique.
Moi, en âme et conscience, je n'ai pas l'impression qu'il y a des incompatibilités entre les fonctions que j'exerce.
Des fonctions très nombreuses. À la base, Frank Robben est le patron de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, mais aussi de la plateforme de santé eHealth. Il gère donc les données personnelles de tous les citoyens du pays. Problème, il fait aussi partie de l'autorité de protection des données, censée veiller au respect de la vie privée, une multitude de casquettes qui inquiète.
C'est surtout un problème que la même personne se retrouve à autant de fonctions différentes sur le même sujet. Et donc, il cumule un certain nombre de mandats, ce qui n'est pas adéquat. Ça crée des conflits d'intérêts, on ne peut pas être juge et partie en même temps.
Quand vous parlez de Frank Robben avec des politiques, les points de vue sont contrastés. Il y a peu, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, déclarait dans le journal Le Soir qu'il faudrait lui ériger une statue pour toutes les solutions qu'il avait permis de trouver au fil de la pandémie. Et il faut reconnaître que l'homme est un bourreau de travail.
On m'a téléphoné au mois d'avril de l'année passée, donc un collaborateur de Philippe Debacque, pour demander de m'occuper de la coordination de l'informatique pour la pandémie. La première chose que j'ai fait cette nuit, on m'a téléphoné le soir, c'est faire un site web. Et donc, entre-temps, je crois que sur ce site, il y a 1000 pages. Vous pouvez aller voir. Je les ai tous écrits, tous, et dans les deux langues, chaque fois, moi-même.
Ceci dit, personne, côté politique, ne reproche à Frank Robben un manque d'implication, bien au contraire. Mais certains ministres ou experts présents aux réunions de gestion de crise racontent avoir été surpris de l'influence de celui-ci sur les décisions. Certains n'hésitaient même pas à dire qu'il avait, je cite, « plus de pouvoir qu'un ministre ». Le principal intéressé, lui, s'en défend, mais reconnaît qu'il participe régulièrement, par exemple, au comité interministériel sur les questions de santé.
Ça me donne deux grands avantages. Un, entendre tout ce qui est possible. Parce que si je dois faire un système qui doit pouvoir être changé toutes les semaines, il est bien de faire une architecture qui anticipe sur toutes les possibilités. Et deux, c'est aussi de pouvoir, quand il y a des décisions, de dire, écoutez, j'accepte la décision de fond, mais maintenant dans l'exécution, vous avez cette possibilité, cette possibilité, cette possibilité. Qu'est-ce que vous choisissez ?
Il prépare donc le terrain auprès des ministres en amont. Il traduit leurs décisions en solutions informatiques en aval. Pour lui, il s'agit juste donc d'une opérationnalisation technique et il se défend de faire lui-même de la politique. Sauf que les choix techniques ne sont pas toujours si apolitiques que cela.
Un choix technique peut avoir un impact démocratique et il faut bien avoir en tête que ce qui est techniquement faisable n'est pas nécessairement démocratiquement acceptable. Par exemple, on lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale et c'est tout à fait légitime de le faire. À l'heure du numérique, on utilise de plus en plus souvent des systèmes informatiques assez puissants qui permettent de repérer dans une masse d'individus qui sont les possibles fraudeurs. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait ? On centralise des données en masse. Donc on a un outil qui s'appelle Oasis, qui permet de centraliser des données de l'ONEM, du SPF Finance, de l'ONSS. On centralise tout ça dans une base de données et on fait tourner sur ces données ce qu'on appelle des algorithmes qui vont croiser les données les unes avec les autres et sortir le nom de personnes qui sont de possibles fraudeurs et qu'il faudra aller contrôler.
C'est donc en vertu de cet algorithme que la machine va hiérarchiser ses recherches, croiser les données et suggérer à un inspecteur de contrôler telle ou telle personne. Mais comment construit-on cet algorithme ?
Alors, des algorithmes, ce n'est pas une chose pure et vierge qui descend du ciel et qui nous donne la solution, la vérité. C'est en fait une suite d'instructions mathématiques qui sont créées par un être humain qu'on appelle un programmateur ou un concepteur d'algorithme. Et que le concepteur d'algorithme va devoir lui-même faire un choix. Ce choix que fait le concepteur d'algorithme, c'est un choix humain. Il va y mettre consciemment ou pas sa propre sensibilité, ses propres critères. Et quand ce choix est intégré dans un outil qui est utilisé à l'échelle de la société, comme c'est le cas des outils utilisés par l'État, ce choix technique est un choix de société.
Et on a vu récemment aux Pays-Bas que ces outils informatiques pouvaient avoir des conséquences très concrètes pour des milliers de familles, avec un scandale qui, là-bas, a même fait tomber le gouvernement.
C'est l'issue d'un énorme scandale administratif. Le gouvernement néerlandais démissionne. En cause, un rapport d'enquête parlementaire publié en décembre. Entre 2013 et 2019, des milliers de familles ont été accusées à tort de fraude aux allocations familiales.
De plus, beaucoup de ces familles font l'objet d'un profilage ethnique sur la base de leur double nationalité.
Si tout le système a échoué, seule une responsabilité commune peut être assumée, et cela m'a amené à la conclusion suivante, proposer la démission de tout le gouvernement au roi.
Aux Pays-Bas, on a vu concrètement ce que ça donnait avec un outil très comparable à l'outil Oasis chez nous. Aux Pays-Bas, l'outil s'appelle Siri. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont réussi aux Pays-Bas, ce qu'on n'a pas encore chez nous, à avoir une étude qui a établi que l'outil Siri ciblait en priorité les pauvres et les migrants. Donc c'est aussi un outil de lutte contre la fraude sociale et la fraude fiscale. Et le système informatique disait aux inspecteurs d'aller cibler en priorité les migrants et les pauvres, et une étude l'a établi. Et il y a eu un procès aux Pays-Bas avec une intervention du rapporteur spécial aux Nations Unies, Philippe Alston, qui a très bien expliqué que cette situation dans la vraie vie, ça donnerait le fait d'envoyer une armée d'inspecteurs systématiquement dans le quartier pauvre, et aucun inspecteur dans les quartiers riches. Dans la vraie vie, on le verrait. Même les riches se diraient, il y a un problème. Le contrôle ne cible que cette personne pauvre. Et donc, aux Pays-Bas, ça a abouti à invalider l'outil, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de garde-fous pour comprendre l'outil, pour vérifier les erreurs, pour vérifier les algorithmes et les biais des algorithmes. Si ça tombe chez nous, c'est exactement la même chose. Oasis n'est encadré par aucune loi, par aucun arrêté royal.
Alors, y a-t-il un risque de connaître ce même genre d'affaires chez nous ? On a évidemment posé la question à Franck Robben. Pour lui, c'est impossible.
Oasis, c'est quoi ? Oasis, c'est un système qui date, je crois, mi des années 90, c'est rien de nouveau. Et d'ailleurs, ça n'existe presque plus parce qu'on a des systèmes plus performants. C'était quoi ? C'était des données pseudonymisées, rien que sur les employeurs, pas sur les travailleurs salariés, sur les employeurs. Des données pseudonymisées où les analystes pouvaient laisser tourner des modèles et ce n'était que quand ils avaient une forte indication qu'il y avait de la fraude que les données étaient dépseudonymisées.
Sauf que, pseudonymisé ou non, ça n'enlève rien au risque de biais dans l'algorithme. D'autant que, renseignement pris auprès de l'administration, un autre outil est effectivement en préparation, plus performant, avec recours à de l'intelligence artificielle, et comme souvent en ces matières, on réfléchit d'abord aux opportunités techniques avant de construire le cadre légal autour. Or, c'est un vrai enjeu politique et démocratique. Se désintéresser de la mise en œuvre technique, c'est prendre le risque de voir les concepteurs d'algorithmes poser des choix politiques, que ce soit consciemment ou non. Il va donc certainement falloir penser pour le futur de nouveaux outils démocratiques pour encadrer tout cela. Reste alors la question du contrôle et d'instances spécifiques qui ont été mises en place pour ça chez nous. Pour veiller à la préservation de la vie privée en Belgique, il y a un régulateur, une sorte de chien de garde, qui s'appelle l'Autorité de protection des données. Cette autorité a d'ailleurs plusieurs fois donné de la voix durant la crise sanitaire pour dénoncer les bien trop faibles balises légales mises en place pour la gestion des données collectées au fil de la pandémie. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'indépendance même du régulateur pose question. Deux directrices de l'Autorité de protection des données ont sonné l'alerte ces derniers mois, estimant que leur instance était en quelque sorte infiltrée. Parmi ces deux directrices, Alexandra Jaspar, qui était venue s'en expliquer dans Matin Première.
Notre autorité, certains membres de notre autorité, ne remplissent pas les garanties d'indépendance qui nous sont imposées par la loi, par le fameux règlement général sur la protection des données. Et pourquoi ? Parce que vous l'aurez bien compris, on doit contrôler l'État ici. On ne contrôle pas une entreprise ou un voisin qui prend un film de sa voisine dans le jardin. On doit contrôler l'État. Et comment peut-on contrôler l'État quand, dans notre sein, nous avons des personnes, des membres, qui travaillent pour le gouvernement ?
Ce qu'elle pointe, c'est l'organe au sein de l'autorité qui doit remettre des avis sur les projets et propositions de loi qui concernent la gestion des données.
Sur ces 7 personnes, il y en a 4, donc une majorité.
Ils sont jugés partis.
Ils sont jugés partis.
Et parmi les membres de ce comité d'avis, il y a, figurez-vous, un certain Franck Robben. Ce qui, pour Élise de Grave, contrevient complètement à l'esprit et à la lettre des textes qui ont présidé à la mise en place de cette autorité.
Cette exigence d'indépendance, elle est ultra claire maintenant et elle est ancrée dans le RGPD de manière ultra claire. Une autorité de contrôle ne peut pas être soumise à une influence directe ou indirecte. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il ne peut notamment pas y avoir de mandataire public au sein de l'autorité de protection des données. C'est exigé par les règles européennes et c'est aussi repris dans nos règles belges. Qu'est-ce qu'on constate quand on voit l'autorité de protection des données ? Franck Robben, qui, on l'a dit, conçoit le système, qui participe à la confection des normes qui encadrent le système, est aussi dans l'autorité de protection des données. On ne pourra jamais croire que cette autorité de protection des données est indépendante.
Alors, là encore, on a évidemment soumis cette question à Franck Robben, qui nous a fait la même réponse que dans chaque interview qu'il donne sur le sujet. Il n'y a pas de conflit d'intérêt pour lui puisqu'il quitte les réunions quand on y traite de ces matières.
Je suis tout à fait d'accord que quand ce sont des projets de loi ou des mesures d'exécution qui concernent la sécurité sociale ou la santé, que j'ai un conflit d'intérêts, alors je quitte la réunion.
Vous savez quand même, M. Robin, que quand vous êtes là avec les mêmes personnes d'habitude, même si vous sortez, etc., il y a quand même une forme d'influence qui peut s'exercer, même pas forcément voulue. Mais bon, vous retrouvez avec des gens avec qui vous allez devoir prendre d'autres décisions.
Écoutez, on
sur
a
ce dossier, c'est quand même
encore une fois,
c'est un
choix politique qu'il va faire.
Mais pourquoi, dans ce cas-ci, vous dites pas vous-même, tant pis, je fais un pas de côté, puisque au fond, ça n'a normalement pas d'impact sur votre secteur à vous, puisque vous devez vous retirer quand c'est des décisions qui concernent la sécurité sociale.
Mais je suis pas à la commission vie privée pour mon intérêt individuel ou pour l'intérêt de mon secteur. Mais je trouve que les méthodes qu'on a élaborées dans le secteur social et de la santé en matière d'équilibre entre droits fondamentaux peuvent être réutilisées dans des autres secteurs.
Sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, j'ai l'impression que cette réponse dit beaucoup de ce que j'ai perçu de la personnalité de Franck Robin à travers cette rencontre et les différents témoignages reçus à son propos. L'homme ne ménage pas ses efforts et se voit comme un grand serviteur de l'État, disponible et mobilisable jour et nuit pour trouver des solutions efficaces. Le fait qu'il veuille à tout prix rester dans l'autorité de protection des données dit beaucoup aussi. Il considère que le voile de doute que cela jette sur l'indépendance de l'autorité pèse bien peu par rapport à tout ce qu'il peut apporter comme expertise dans le domaine du traitement des données.
Allez.
Comment vous prenez alors le fait que certains vous présentent comme une forme de grand méchant loup, je ne sais pas, Big Brother?
Je n'ai encore jamais, même les gens qui sont le plus critiques, n'ont jamais appelé un grand méchant loup, ça je ne crois pas.
Au fond, le problème dépasse ici Franck Robin. Un système ne peut pas dépendre d'un homme seul, même s'il a les meilleures intentions du monde. Il existe déjà aujourd'hui des garde-fous, mais la prise de conscience politique et citoyenne sur les enjeux de la numérisation a encore du chemin à faire. Pour développer un cadre législatif clair et adapté, avoir de vrais organes de contrôle indépendants et forts. Que ce soit dans le domaine privé, avec les GAFAM, mais aussi dans le domaine public, l'utilisation massive des données, le recours à des algorithmes et à de l'intelligence artificielle n'est pas une simple transformation informatique de notre fonctionnement d'avant. Le risque d'une technocratie, d'une algorithmocratie obscure se profile si l'on ne prend pas garde à investir démocratiquement cette transformation profonde de nos sociétés qu'opère la digitalisation. C'était Démocratie en question, épisode 5, une série de la première avec le soutien du Fonds pour le journalisme, à la réalisation sonore Jonathan Remy. Prochain épisode, l'enjeu climatique. Est-ce la mère de toutes les batailles pour nos démocraties? Le cadre démocratique est-il adapté à l'urgence qu'impose cette crise climatique? C'est ce qu'on tentera d'explorer. Si vous souhaitez réagir à cette série, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante démocratie@rtbf.be, démocratie au singulier et sans accent @rtbf.be. On vous lit, on fera part aussi de vos réactions dans de prochaines émissions. Et puis si vous souhaitez retrouver ces émissions, les partager aussi, vous pouvez aller sur Ovio ainsi que sur toutes les plateformes de téléchargement et retrouver donc cette série « Démocratie en question ».